Afrique, les infos à Washington.
Jean Roger Bion, il est 11h01 universel. Bonjour à tous. Le parti des islamistes modérés d'Ennahda en Tunisie a obtenu dimanche une faible avance aux élections législatives, compliquant le processus de formation d'une coalition gouvernementale dans un contexte économique fortement dégradé. La formation politique se présente comme un parti musulman démocrate a remporté 17,5% des voix selon les premières estimations réalisées à l'issue des votes. Et son principal rival, le parti de l'homme d'affaires Nabil Karoui, cœur de la Tunisie, a remporté lui 15,6% des voix. Ces résultats laissent la jeune démocratie tunisienne avec un parlement divisé dans lequel Ennahda devra fonder des alliances pour gouverner. Le professeur de droit Kais Saïd et l'homme d'affaires Nabil Karoui, qui se trouve en détention depuis le 23 août dernier, s'affronteront aux élections présidentielles lors d'un deuxième tour. Ce sera dimanche prochain. En République centrafricaine, près de 3000 armes de fabrication artisanale et des fusils d'assaut ont été incendiés samedi par la MINUSCA à Boire, dans l'ouest du pays. Ces armes avaient été collectées dans le cadre du projet Réduction des violences communautaires à Bangui, Freeman Sipila.
Ces armes transportées dans un camion Ben ont été entassées et incendiées publiquement dans le camp de la MINUSCA. Il s'agit précisément de 2981 armes de fabrication artisanale habituellement utilisées par des miliciens anti-Balaka et de 15 fusils d'assaut. L'opération de collecte basée sur un désarmement volontaire a permis également de récupérer 70 roquettes, 360 grenades et près de 10 000 munitions de guerre. Une véritable avancée vers la paix selon Pericles Gasperini, chef de bureau de la MINUSCA à Boire.
Il faut remercier les rebelles qui ont décidé de choisir le bon chemin, le chemin de la paix, le chemin du développement. Je voudrais demander qu'on passe une minute de silence, en réfléchissant à ceux qui ont perdu la vie à travers ce conflit, et en même temps remercier ceux qui ont choisi le bon chemin pour donner un exemple aux autres qui sont encore pour arriver.
En 2018, une opération de ce genre, dans le cadre de la première phase du programme de réduction des violences communautaires, avait permis la destruction de plus de 2300 armes. Un monument pour la paix a été érigé sur les lieux de l'incinération au centre-ville de Boire. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
La nouvelle du week-end au Cameroun, Maurice Kamto est sorti finalement de prison. Le principal opposant au président Biya a été libéré après 9 mois d'incarcération, et ce sur décision de M. Biya lui-même. Il a décidé d'arrêter les poursuites à l'encontre de M. Kamto et de plusieurs de ses partisans. Yakuba Ouedraogo a joint à Yaoundé l'un de leurs avocats, Michel Ntchale.
Pour le cas du professeur Maurice Kamto, ses alliés, il s'agit de ce qu'on appelle l'arrêt des poursuites. Parce que voyez-vous, le professeur était poursuivi devant un tribunal d'exception, qui est le tribunal militaire. Et là-bas, contrairement au tribunal de droit commun, par exemple, au tribunal militaire, c'est le président de la République, chef suprême des armées, qui donne le là. Il a décidé un moment de poursuivre et il a décidé donc d'arrêter les poursuites. C'est sur ce fondement-là que Maurice Kamto, les alliés et les autres sont sortis de prison tout à l'heure.
En plus de Maurice Kamto, qui sont ceux qui sont concernés par cette remise en liberté-là?
Tous ceux qui étaient comparsés devant le tribunal militaire en relation avec la crise post-électorale, c'est-à-dire à peu près 92 personnes pour être exact avec vous.
Est-ce que cet arrêt de poursuite décidé par le président Biya signifie tout simplement que toutes ces personnes qui étaient en prison sont blanchies?
Elles sont blanchies, il n'y a pas une décision de justice. Mais sauf que vous voyez, il y a une petite ambiguïté. Parce qu'ils disent arrêt de poursuite, mais si, ils peuvent les reprendre à tout moment au cas où il y a un fait nouveau éventuellement. Mais au stade où nous sommes, il n'y a aucune décision de condamnation qui est intervenue contre elles.
Et donc désormais, Maurice Kamto et les autres sont libres de leur mouvement et peuvent reprendre leurs activités politiques notamment?
Tout à fait. Et voyez-vous, c'est pour ça que nous, le collectif, nous sommes échignés pendant 8 mois à aller de procédure en procédure pour retarder au maximum la phase de jugement. Parce que nous savions que c'était un dossier politique qui allait se dénouer de manière politique. Parce que vous voyez, si on était rentré en voie de condamnation contre eux, alors on aurait parlé plutôt de grâce. Et là, ça pouvait être compromettant pour Maurice Kamto et les autres qui ont quand même des ambitions politiques.
On sait que bien avant ça, le président Biya avait décidé de la remise en liberté de 333 personnes arrêtées dans le cadre de la crise anglophone. Est-ce que ces mesures d'apaisement là vont contribuer à ramener, j'allais dire, la stabilité au Cameroun?
Comme vous le savez, les têtes de proue restent détenues. Il s'agit de M. Aoutabe et compagnie qui ont été condamnés à la perpétuité. Donc, je ne sais pas si ça va totalement décrisper, mais ça va quand même décrisper. Mais ça aurait été encore plus évident si M. Aoutabe et autres avaient subi le même sort.
Vendredi, c'est la clôture du Grand Dialogue National. Samedi, Maurice Kamto et ses partisans qui étaient emprisonnés sont remis en liberté. Est-ce que vous pensez que cet arrêt des poursuites décidé par le président Biya peut à faire l'objet de discussions au sein du Grand Dialogue National?
C'est possible. Je ne pense pas qu'on ait pu organiser une messe comme celle-là, appelée Dialogue National, sans qu'on ne parle quand même de Kamto. Parce que, écoutez, depuis plus de 8 mois, on ne vit, on est resté au Cameroun que de faire Kamto. Parce que vous savez, comme moi, si on s'en tient qu'aux chiffres officiels, il est quand même le deuxième de la présidentielle du 7 octobre. Vous comprenez donc qu'on ne peut pas organiser un dialogue qui vise à peser et ne pas parler de cela. Mais maintenant, est-ce que c'est les incidences du dialogue qui ont permis qu'il soit libéré? Je ne pense pas. J'ai l'impression que c'est des mesures qui avaient été apprêtées pour accompagner le dialogue.
Maurice Kamto est maintenant libre. Quelle activité politique pourrait-il mener dans l'immédiat selon vous?
Je pense qu'il va se retirer certainement dans sa famille pour se ressourcer un peu. Mais naturellement, puisqu'on va aller bientôt aux élections municipales et législatives, il va bien falloir qu'il se redéploie sur le terrain. Il y a eu un regain, un engouement certain pour ce parti du fait, n'est-ce pas, de l'embastillement de son leader.
Michel Mtchalé du collectif des avocats de Maurice Kamto, joint à Yaoundé. Les forces de sécurité rwandaises ont tué 19 terroristes auteurs d'une attaque meurtrière menée dans la nuit de vendredi à samedi dans une région du nord du pays, proche des frontières congolaises et ougandaises, a annoncé dimanche la police rwandaise. Elle n'a toutefois fourni aucun détail sur ces terroristes, alors que d'après l'AFP, plusieurs sources militaires contactées ont évoqué la possibilité qu'ils soient des rebelles venus de la République démocratique du Congo, la RDC. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a qualifié d'élucubration les spéculations sur un putsch militaire malgré la dégradation continue de la sécurité dans le pays en guerre et le récent revers meurtrier infligé par les djihadistes à l'armée gouvernementale. Dimanche matin encore, un casque bleu a été tué et 5 autres blessés dans 2 attaques, l'une à l'engin explosif, l'autre à l'arme à feu, dans le nord-est et le centre du pays, a indiqué la MINUSMA sur Facebook. Et la force de stabilisation de l'ONU, établie en 2013, chiffre maintenant ses pertes humaines à plus de 200 sur son site internet.
Nos infos sur voaafrique.com.
La saison des Nobel est ouverte. Le prix Nobel de médecine a été attribué conjointement aujourd'hui aux Américains William Kellen et Greg Semenza et aux Britanniques Peter Radcliffe pour leur recherche sur l'adaptation des cellules à l'apport variable d'oxygène qui ouvre des perspectives pour le traitement du cancer et de l'anémie. Le prix Nobel de cette année donc récompense des travaux ayant révélé les mécanismes moléculaires à l'œuvre dans l'adaptation des cellules à l'apport de l'oxygène dans le corps, selon l'Assemblée Nobel de l'Institut Karolinska à Stockholm dans ses attendus. Après la médecine, suivront donc demain la physique, la chimie ce sera mercredi et la littérature jeudi. Le prestigieux Nobel de la paix, lui, sera décerné vendredi à Oslo. Le prix d'économie créé en 1968 à l'occasion du centenaire de la Banque de Suède va clore la saison le lundi 14 octobre. Les Nobel ont été attribués pour la première fois en 1901 après que le riche industriel suédois Alfred Nobel, inventeur de la dynamite, eut légué sa fortune à la création de ces prix. Les discussions entre Européens et Britanniques sur le Brexit vont reprendre aujourd'hui à Bruxelles et l'équipe de Michel Barnier attend de savoir si Boris Johnson a accepté de modifier ses positions sur les points problématiques de son plan de sortie de l'Union européenne. Les propositions présentées la semaine dernière par le Premier ministre britannique pour remplacer l'accord conclu par Theresa May ont été rejetées par les Européens. Ils ont donné aux Britanniques une semaine jusqu'à vendredi pour les modifier afin d'éviter un no deal le 31 octobre. Les socialistes du Premier ministre sortant Antonio Costa ont remporté dimanche au Portugal les élections législatives sans majorité absolue, obligeant le parti à former une coalition d'après les résultats officiels. Alors que la plupart des bulletins ont été dépouillés, la formation de centre-gauche arrive en tête avec 106 sièges remportés sur les 230 que compte l'Assemblée. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francis. Bon après-midi à tous.
soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.